intérêt du gouvernement d'aller fouiller là-dedans, puis encore plus de revenir piler sur leur peinture fraîche, puis dire finalement, Rivière-du-Loup, on va leur donner le temps d'arrêt qu'ils demandent là pour être capable d'aller faire leur étude indépendante. Je crois pas à ça.
As-tu vu Mario Bastille avec le cahier ce midi? Je l'ai vu au bulletin de nouvelles régionales.
Non.
Il présentait un cahier et il y avait une page de droite là, qui était complètement caviardée.
Ouais, noir.
Il y avait une petite ligne blanche en haut, c'est probablement pour donner le numéro de la page.
Oui, oui.
Le restant était noir, noir. Ouais. On lui remet ça comme document.
Eh oui.
Une insulte.
Eh oui, c'est de même que ça marche. Écoute, j'écoutais aussi ce matin dans les nouvelles, là, on parlait justement de ça à clic, puis de leurs problèmes. Même les parlementaires, entre eux autres, ils se prennent dans leur propre contradiction. Tu sais, dans dire une chose et son contraire, et ainsi de suite. Fait qu'imagine-toi, quand on arrive avec des trucs comme ça, le caviardage de pleine page, tu sais, nous amène à l'invraisemblance. Effectivement, tu te dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est comme de dire, ben, je te parle d'un individu. On va cacher son nom. On va cacher son adresse. On va y cacher la moitié de la face. Puis l'autre moitié qui reste, les yeux, on va y mettre un bandeau. Puis garde, c'est lui.
Et il ne portait que des bas bleus.
Ça ressemble à ça. Ça ressemble trop à ça. La mairesse de Saint-Médard a démissionné.
Bon. Je pense qu'elle a cassé son marteau.
Je sais pas. Mais de toute manière, le petit maillet, probablement qu'elle l'a emporté avec elle. J'en sais trop rien. D'ailleurs, le maillet, je me souviens pas si on l'a déjà vu, le maillet. Je suis certain, là. Mais d'après moi, c'était comme un maillet de juge, là.
Oui.
Un maillet
je l'ai vu
bois,
dans un reportage télé.
OK, OK. Oui, ça doit être le même que moi. Oui, ça se peut qu'on l'ait vu.
Avec du bras.
OK. Alors, Madame Gagnon est partie. Elle a envoyé à la directrice générale par courrier recommandé son avis de démission. Il y a un conseiller aussi qui est parti, le conseiller Gilles Dubé. Ça fait qu'ils n'ont plus quorum, Gilles.
Il reste combien?
Ils n'ont plus quorum, ils n'ont plus rien que trois. Trois conseillers.
Bon.
Et plus quorum.
Ça veut dire qu'ils vont faire un peu comme on a fait à Saint-Paul-la-Croix. Ils vont être en toute seule à chaque fois qu'ils vont aller.
Ben oui. Madame Lapalme, la DG, a confirmé que la Commission municipale du Québec va gérer les destinées de Saint-Médard dans les prochains mois, et ça jusqu'aux prochaines élections en novembre.
Mais as-tu pensé, là, on parle juste entre nos deux, là, à un moment donné, la commission municipale va s'écœurer. Elle va dire, là, ça suffit, là, cette mascarade-là, là, à tout bout de champ, la chicane est poignée, on manque de conseillers, on est obligé de vous prendre sous tutelle pour gérer à votre place, on va vous obliger à fusionner. Mm-hmm. Tout aussi simple que ça? Ouais. Bon. Puis j'ai hâte que la commission municipale passe avec cet acte-là, là, parce que Daniel, c'est rendu ridicule.
Mais le ministère des Affaires municipales n'ira pas là. Pour faire un truc comme ça, il faudrait que tu sois dans la première année de ton mandat. Pas dans la dernière année d'un mandat. Le gouvernement fera jamais ça, les fusions forcées. Jamais. Non, ils feront pas ça.
Daniel, depuis la dernière élection, je me demande si on siégeait un conseil au complet.
Mm-hmm.
Il y a toujours des conseillers qui démissionnent. Il y a un maire qui se fait remplacer. Tu sais, c'est vraiment pas drôle. Là, c'est des municipalités. Par contre, on en a qui ont, exemple, Squatec. Maintenant, Squatec, il leur manquait deux conseillers, mais ils ont fait pratiquement tout un mandat avec ça.
Ouais.
Ça allait bien. T'as d'autres municipalités qui nous prouvent qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller à 6 conseillers.
Hein, oui, tout à fait.
On l'a prouvé dans le passé.
Ouais.
Alors, moi, je pense que, regarde, la commission municipale va venir qu'à cette année, puis on va dire, regarde, on va vous en trouver des économies de bout de chandelle, là.
Ça a fait réagir ce matin sur les réseaux sociaux, même sur le site de l'Océanique de Rimouski, je voyais ça. D'ailleurs, sur le site de l'Océanique, j'ai compris qu'on avait enlevé cette séquence où Michel Germain, le descripteur des matchs, dit... il nomme trois joueurs des Voltigeurs...
Des
Cataractes de Shawinigan. Il nomme trois joueurs et dit « Ils sont partis » ou encore « Ils sont partis » puis il nomme les trois joueurs. Les Cataractes viennent de se faire éliminer. Deuxième période supplémentaire, je pense,
quelque chose comme ça.
Match numéro 7. Hein.
Oui.
Je ne sais pas quelle bulle est passée au cerveau de Michel Germain. Mais je veux dire, quand tu viens de battre un adversaire en série après 7 matchs.
Ouais.
C'est pas le temps, c'est pas le temps de ridiculiser personne, puis encore bien moins de régler tes comptes en tant que descripteur.
Mais Daniel, il y a encore bien pire que ça. Les 3 jeunes qui quittent, eux ont terminé leur
joueur de 20 ans, oui.
Les joueurs de 20 ans. Ouais. Ces jeunes-là, là, on l'a vu l'autre soir avec Savard, le défenseur du Canadien, mm-hmm. c'était son dernier match contre Washington.
Ouais, ouais, ouais.
Il pleurait comme une madeleine à ligne bleue.
Ouais, ouais.
Ces jeunes-là, Daniel, là, on est émotif au bout. Une carrière junior,
ouais.
c'est pour plusieurs là-dedans, c'est les plus belles années de leur vie.
Ouais.
Et puis là, on se voit, bon, la carrière junior est terminée pour eux. C'est une période de leur vie là, qu'ils n'oublieront ouais. jamais. Ils quittent sans ouais. larmes, puis quelqu'un vient leur dire « Bonsoir, ils sont partis ».
Oui, oui. Je ne comprends pas. Je pense que dans le meilleur intérêt du hockey junior majeur, québécois et néo-brunswickois et maritimois, tu sais, dans mm-hmm. l'autre bord là, d'un maritime, je pense que dans le meilleur intérêt de cette ligue de hockey-là, Michel Germain devrait s'excuser, d'une part, et l'Océanique de Rimouski devrait aussi présenter ses excuses à la ligue et à l'équipe, mm-hmm. parce que on a toujours dit que Michel Germain faisait partie de la famille de l'Océanique. Alors, il n'est pas un descripteur, moi, j'ai jamais compris qu'il était un descripteur neutre, j'ai compris qu'il était le descripteur de l'Océanique.
Ah oui, à la seule de l'équipe.
C'est ça. Alors, moi, je pense que l'Océanique, écoute, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Maurice Tanguay, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas, puis celle-là ne se faisait pas. Alors, il faut que Michel Germain fasse amende honorable, s'excuse auprès des Cataractes de Shawinigan, et que l'Océanique de Rimouski montre clairement qu'il ne cautionne pas ce qui s'est passé lors du but qui a été marqué en supplémentaire hier.
Mm-hmm.
Je pense que c'est élémentaire. Et si ça s'était produit, et je le dis très ouvertement, là, et je sais que ça n'arriverait pas avec Louis Deschênes et Kevin Beaulieu qui ont une éthique que j'apprécie énormément, ben si ça arrivait et que j'étais encore boss, j'aurais fait venir les gars dans mon bureau et je leur aurais dit, les gars, ça se fait pas. Vous allez trouver le moyen de vous reprendre, mais ça se fait pas.
Mm-hmm.
T'as beau, en tant que descripteur, avoir développé certains... appelons ça des mauvais sentiments à l'endroit de certains joueurs. La série a été dure, tu sais, je veux dire... exemple, les 3L auraient fini en finale contre Laval, puis Tempa d'Annick Paquette, tu sais, là, on est contre Sorel Tracy, on n'aime pas les morts loin. Mais quand c'est fini, là, tu sais, puis c'est surtout pas au descripteur d'aller régler des comptes, là.
Ben non, lui, il n'y a rien à voir là-dedans, lui, il n'a pas mangé aucun mauvais coup, puis il s'est pas fait changer de bêtises,
c'est
hein.
ça.
Alors, lui, fait son travail.
Oui.
Et d'autant plus, je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a hier soir, Michel Germain était à sa dernière partie à titre de descripteur. Je peux me tromper, il y a encore une série.
Ben, il y a une finale.
Il y a une finale, mais en tout cas, il me semble que j'ai lu à quelque part que c'était sa dernière apparition à titre de descripteur hier soir.
En tout cas, si c'est ça, lui qui, jusqu'à maintenant, bon, il y en a qui l'aimaient, il y en a qui ne l'aimaient pas comme descripteur, ça c'est au goût de chacun, là. Mais il y avait quand même un parcours sans faute, là, je dirais mm-hmm. ça comme ça. En tout cas, sans faute qui avait été portée à l'attention du public ou des médias. Mais effectivement, il était un dernier match hier, de toute façon, on sait qu'il est en fin de parcours, on sait ça, ça a été annoncé. C'est une bien mauvaise manière de laisser souvenir dans la description des matchs de hockey. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'ai trouvé ça particulier. Voir prématuré, c'est drôle, hein, parce que moi, Donald Trump, là, moins j'en entends parler, mieux que je me porte, là. Mais j'ai trouvé ça particulier, les notes qu'on a données aussi élevées à Mark Carney pour la rencontre. Tu sais, je sais pas sur quoi les chroniqueurs se sont basés. Hey, écoute, je regardais ça, là, à la une du Journal de Québec. Guillaume Saint-Pierre, 9 sur 10. Mario Dumont, 9.5. Pierre Martin, 8.5. José Legault, 10. Yasmine Abdel-Fadel, 10. Écoute, c'est-tu juste parce que M. Carney n'a pas mangé de claques à la gueule qu'on a donné des grosses notes comme ça? Est-ce que c'est rien que parce qu'il n'a pas été ridiculisé comme le président de l'Ukraine? C'est quoi, là?
Je pense, Daniel, que ces gens-là... Je dirais pas qu'ils veulent se faire pardonner, mais plus la période de la vote, la journée du vote approchait, moins ils étaient, le vote et puis la rencontre avec M. Trump, moins ils laissaient dégager de l'espoir. Puis des fois, on se demandait s'ils ne souhaitaient pas qu'ils mangent une claque sa gueule à Washington. Uh-huh. Et là, la performance qu'a livrée M. Carney les a un petit peu comme pris de court. Et là, en attribuant des notes allant jusqu'à 10 sur 10, tu ne peux pas donner 10 sur 10 à quelqu'un pour que tu joues une rencontre. Moi, il me semble qu'on aurait pu s'en tenir à des notes de 8.5, mais d'aller jusqu'à 9, ça devient excessif.
Et je crois, et je me rallie tout à fait aux autres chroniqueurs qui ont dit c'est la suite des choses qui va faire la démonstration qu'il y a eu là un succès, un demi-succès, ou finalement que Mark Carney s'est fait rouler dans la farine, qu'en apparence, ça avait l'air bien beau, mais que dans la réalité, le président américain continue de faire à sa tête, puis ça s'arrête là.
Une fois qu'il a mis les journalistes dehors, puis qu'il s'est en retenu avec un petit repas pendant une heure, on ne sait pas ce qui s'est passé là, puis ce qui s'est dit.
C'est ça.
Et surtout, je ne pense pas qu'on ait toléré des oreilles indiscrètes pour... qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont dit, le premier téléphone avec M. Trump, on n'a pas parlé du 51e État, alors qu'on en avait parlé, et c'est arrivé dans les dernières 72 heures avant le jour du vote. Mm-hmm. Ça aurait pu être lourd de conséquences. Ouais. Je ne pense pas qu'on ait laissé des oreilles indiscrètes dans cette salle-là, puis on ne sait pas ce qui s'est passé, l'avenir nous le dira.
Ça m'étonnerait aussi, en passant, on n'a toujours pas de pape. La fumée a sorti noire, Gilles.
Ah, il y a déjà ouvert le poil, là?
Oui, la fumée a sorti noire. Donc, après le premier vote, pas de pape.
Ouais.
Pas de pape. Mais c'est tellement drôle, Gilles, de voir les animateurs qui... J'entendais même... est-ce que c'est ce matin... À quelle place que j'ai entendu ça? Je pense que c'est à la télé ce midi. Où il y a une chroniqueuse ou une journaliste qui a fait remarquer qu'on parlait de la chapelle Sixtine, comme dans Christine. C'est pas Christine, c'est Christine. Et il y a plusieurs personnes, surtout de la nouvelle génération, qui pensent que c'est Sixtine, comme 16 en anglais. Donc, on parle de la chapelle Sixtine, alors qu'en réalité, c'est la chapelle Sixtine, comme dans Christine, comme dans Martine. Tu comprends? Alors, peut-être qu'il y en a qui ont pensé que c'était la chapelle numéro 16, tu sais, la chapelle Sixtine, mais non, c'est bien Sixtine. S-I-X-T-I-N-E.
Ben moi, j'aimerais que les gens m'expliquent pourquoi est-ce qu'il y a toujours un Christophe de Gouellet qui est parqué à Racheminée. Il fait quoi, là, lui? C'est une colombe ou c'est un Gouellet?
Il sniffe la boucane.
Je sais pas.
Il sniffe la boucane.
C'est pas d'aujourd'hui, là.
Je sais pas.
Antérieurement, je me rappelle qu'à chaque fois qu'on voyait cette cheminée-là, il me semble qu'il y a un tour, un motadique Gouellet ou une colombe qui est parquée pas loin.
Ouais. Gilles, il nous reste 2 minutes et demie. C'est un sujet sur lequel on pourrait discourir longtemps, puis on en a parlé hier. Les fameux procès en justice, là, on va prendre l'exemple de maintenant, là, qui concerne des joueurs de hockey. OK? Qui concerne des joueurs de hockey. Là, il y a un article dans le journal qui dit que, la défense plaide que la jeune fille aurait même manifesté le désir d'avoir plusieurs gars dans la chambre pour se payer une folie. Je mets ça de côté. Et la question que je pose, si on veut réformer le système judiciaire concernant les victimes d'agressions sexuelles, comment va-t-on devoir orienter la justice pour que des affirmations comme celle-là ne soient pas amenées en cours, mais en même temps que si c'est vrai, on doit pouvoir questionner la victime. Tu me suis?
Mm-hmm.
Comment on va faire pour créer l'équilibre là-dedans? Puis, ce serait plaisant d'en discuter peut-être avec Jacinthe Maurice demain après-midi, si jamais, elle a le temps d'aborder cette question-là sous forme de recherche puis de se forger une opinion là-dessus. Mais comment tu veux, d'une part, éliminer ce qu'on appelle de l'intimidation parfois, alors que celle qui se défend devient pointée comme étant la coupable? Comment tu veux te sortir de ça et en même temps de pouvoir questionner quelqu'un qui, par exemple, sous de fausses accusations, serait en train de ruiner la vie de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Daniel, c'est moi, je pense que le premier élément sur lequel on doit tenir compte,